Invenu par Toufik Hakem, cette semaine je reçois
Michel Simand, historien et critique de cinéma.
Premier épisode, naissance d'une passion. Bonjour Michel Simand.
Bonjour Toufik Hakem.
Alors, historien, critique de cinéma, ça relève d'une vocation, d'une passion ou des hasards de la vie?
Les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est pas une vocation. On ne dit pas je vais devenir critique de cinéma. C'était au départ l'intérêt pour le cinéma, comme beaucoup de jeunes gens, de plus tard d'adolescents. C'est-à-dire, j'allais voir, c'était les années. Je suis né en 38, donc c'était vers 45, 46 après la Libération. Avant, j'allais très peu au cinéma, évidemment. Et donc, j'allais voir essentiellement des films américains et des films français. Et comme tous les adolescents, tous les jeunes gens, c'était ce qui m'attirait, c'était les genres cinématographiques. Je savais pas qui étaient les metteurs en scène. C'était les genres cinématographiques et puis c'était les comédiens. C'est-à-dire, j'allais voir un film de Errol Flynn ou de Betty Davis et j'allais voir un film de Jean Gabin et de Gérard Philippe. Donc voilà, c'était vraiment le cinéma du samedi soir. J'ai pas commencé comme beaucoup de jeunes aujourd'hui par l'université en étudiant Chantal Akerman et Marguerite Duras. C'était vraiment le cinéma populaire. Et je suis resté d'ailleurs assez fidèle, non pas seulement au cinéma populaire. J'aime beaucoup les films de recherche, les films d'auteur. Mais fondamentalement, je suis resté tout de même assez grand public et capable d'aimer les films qui se plaisent aussi, parfois, pas toujours, au grand public, qui a plus de goût qu'on ne croit.
Vous êtes né à Paris, Michel Simand. Est-ce que ce sont vos parents qui vous ont emmené au cinéma, qui vous ont initié au cinéma, ou c'est le contraire? Aller au cinéma, c'était une manière pour vous de vous échapper, d'accomplir cette rupture avec le milieu familial?
Mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que mon père était un créateur de jupes, de plissés. C'était un artiste qui travaillait pour les grandes sociétés pas de prêt-à-porter, mais vraiment des grandes sociétés qui faisaient des vêtements pour les femmes. Donc, il faisait des moules en carton dans lesquels il insérait le tissu. Donc, c'était un homme assez taciturne, juif d'origine hongroise, qui avait quitté le pays sous le régime fasciste. Il était venu au début des années 20 et il avait un atelier. Et ma mère travaillait pour lui et est devenue son épouse. Et c'est plutôt du côté de ma mère que l'influence a été grande. Mon père était quelqu'un, d'abord c'était un grand joueur, il jouait de toutes les, il a ruiné la famille souvent, il jouait absolument de tout. Il se faisait interdire dans les casinos de France, alors il prenait la voiture pour aller jouer en Belgique. Mais c'était un homme que j'aimais beaucoup, qui me touchait beaucoup, qui était très, très taciturne, et qui lisait le journal, qui jouait les courses, etc. Bon. Et puis ma mère, par contre, était également d'origine très modeste. Elle avait un certificat d'études, elle avait commencé à travailler à 13 ans. Mais elle était très littéraire, d'abord. Elle lisait beaucoup, elle allait au théâtre et elle allait au cinéma. Et c'est elle qui m'a donné un peu une sorte de culture un peu générale, toujours liée au spectacle ou à la lecture. Moi-même, j'ai découvert de mon côté, en étant au lycée Condorcet, j'ai découvert la peinture en allant voir des expositions, etc. Et j'écoutais de la musique. J'avais appris l'allemand dans une famille autrichienne près de Salzbourg. Donc ça tombait bien parce qu'il y avait le festival. J'écoutais de la musique à la radio. Furtwängler, les grands chefs d'orchestre allemands et autrichiens. Et je me suis initié aussi à la musique vers l'âge de 13 ou 14 ans. Donc j'avais une sorte de multiculture. Mais je dois dire que c'est l'influence de ma mère avant tout qui a été déterminante dans mon évolution future.
Y compris pour le cinéma?
Oui, elle aimait beaucoup le cinéma, mais pas du tout le cinéma d'auteur. Elle connaissait pas Fellini ou les premiers films d'Antonioni. Non, elle aimait sûrement les films de Clouzot, elle aimait les films de René Clair, etc. Bon, et j'allais voir, encore une fois, attiré surtout pas par les metteurs en scène, mais par les comédiens et par les genres. J'allais voir les films de KPDP, j'allais voir les films des westerns, les films de gangsters, tout ce qui peut séduire un jeune.
Michel Simand, vous venez de m'apprendre que votre père était juif hongrois. Comment vous avez traversé la guerre? Parce que vous avez été enfant pendant la guerre.
Oui, j'étais, d'abord au début, j'étais à Paris avec ma famille. Mon père travaillait, etc. Et puis ensuite, il y a eu la grande rafle. qui est devenue très dangereuse. Il y a des policiers qui étaient venus voir ma mère le matin et qui ont dit « ce soir, votre mari n'a pas intérêt à rester chez vous », ce qui montre que la police était très compliquée. Il y avait des gens zélateurs de la poursuite des Juifs et d'autres qui étaient effrayés aussi.
Qui prévenaient les gens.
Certains policiers, Antoine, lui, il a eu la chance cette fois-ci d'avoir été prévenu. Donc il se cachait chez la sœur de ma mère ou chez une amie de ma mère qui courait de grands risques, parce que cacher un Juif, c'était une déportation également. Ça prouve aussi qu'il y avait beaucoup de collaborateurs, mais il y avait aussi une majorité de gens qui étaient plutôt passifs, et puis une autre minorité qui était active. Et donc, à ce moment-là, mon père est parti à la campagne se réfugier à Berduit, en Normandie, près d'Alençon. Et je l'ai suivi, on s'est caché. Ma mère faisait l'aller-retour, elle continuait à travailler. Et elle venait voir mon père et elle repartait, etc. Donc je me rappelle un peu les wagons dans le métro. Ce qui est très curieux dans mon histoire, qui est très complexe, c'est que ma mère n'était pas considérée comme juive. Elle était goy. Elle avait épousé un juif. Mais donc grâce à cela, je n'étais pas poursuivi. Je n'étais pas jugé coupable, si on peut dire.
Mais vous étiez conscient de tout cela quand vous étiez enfant, de cette traque du nazisme?
Bien sûr, il y avait des toiles jaunes, il y avait voyagé dans les transports en commun, dans des wagons spéciaux pour les juifs, etc. C'était mon père, donc comme je sortais avec lui parfois, je le suivais là où il devait aller. Mais je n'étais pas conscient vraiment des enjeux. Je crois que mes parents ne tenaient pas à me traumatiser et à me donner des informations. Mais évidemment, ça a beaucoup aidé plus tard à ma conscience politique.
Qu'est-ce qui se passe en 1945? Vous revenez à Paris, Michel Simon, avec votre famille?
Oui, on revient à Paris. Là mon père travaille et a beaucoup de succès. Il travaille donc à faire ses plissés. Mes parents mènent une vie plutôt mondaine. Ils vont dans des bons hôtels, dans des bons restaurants. Ils m'accompagnent. Je passe sur la Côte d'Azur pour les vacances, etc. Et ensuite, c'était beaucoup moins bon parce que le plissé est devenu de moins en moins productif financièrement, etc. Donc ensuite, mes parents ont quitté cette entreprise vers 1956-57, quand j'avais presque 20 ans. Ils ont travaillé dans des tabacs, ils ont travaillé dans des veilleurs de nuit et n'avaient plus du tout la même existence qu'ils avaient eue auparavant.
Est-ce que le cinéma était présent quand vous étiez adolescent, Michel Simon, plus présent que lors de votre enfance, par exemple?
Oui, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord la première étape que j'ai dite, c'est-à-dire ce goût pour le cinéma commercial français et américain.
Là, vous êtes enfant.
Voilà. Puis ensuite, dans les années 50, j'ai commencé à... Je faisais des études à Louis-le-Grand pour entrer à Normal Sup. Je fréquentais la cinémathèque de la rue d'Ulm. Donc j'ai commencé à découvrir les films muets. Par exemple, j'avais jamais vu, à part Chaplin, j'avais jamais vu film muet. J'ai découvert Stroheim, j'ai découvert Murnau, Fritz Lang, les Suédois, Eisenstein. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était le langage pur du cinéma. Tout était exprimé par des images. Et je me concentrais beaucoup plus sur le film, sur la mise en scène, que dans les films où le dialogue avait une importance très grande. Donc ça a été une deuxième étape. Et puis, parallèlement à cette découverte du cinéma ancien, et surtout muet, c'était le début de la reconnaissance des auteurs modernes. C'est-à-dire qu'on commençait à voir les films de Bergman, les films de Fellini, les films d'Antonioni, les films de Bresson, de tous ces metteurs en scène qui apparaissaient comme des grands auteurs, comme en littérature ou en peinture. Et donc, j'ai commencé à avoir une éducation, j'ai commencé à acheter des cahiers du cinéma et positifs, deux revues de cinéphiles. J'ai commencé à fréquenter les salles d'arrêt d'essai comme le studio Parnasse, les agriculteurs, toutes les salles, studio Bertrand, enfin, où on se retrouvait entre lycéens, etc., où des amitiés se nouaient. Et donc ça a été, si vous voulez, une troisième étape. Et c'est évidemment la lecture des revues de cinéma qui m'a incité ensuite à vouloir devenir critique. Et j'ai commencé par écrire dans une petite revue renéotée quand je faisais mes études à la Sorbonne, des études d'anglais. J'ai écrit dans une revue renommée qui s'appelait Cinématexte, où il y avait des critiques de grande valeur, comme Claude Gauter, comme Claude Belli, qui écrivaient, mais qui eux étaient déjà connus, qui écrivaient dans les cahiers ou dans Positif. Et moi-même, j'ai collaboré avec quelques articles. Et puis un jour, j'ai rencontré à la bibliothèque de la Sorbonne Bernard Cohn, avec qui j'ai sympathisé, qui me disait « Je suis entré à Positif il y a 3 mois, tu sais, ils sont contents de vouloir recruter des gens plus jeunes. Si ça t'intéresse, tu peux faire ta candidature. » Donc j'ai envoyé un article, c'était en 1962, je crois 63, j'ai envoyé un article pour défendre le procès d'Orson Welles, qui était un film qui avait été très attaqué comme infidèle à Kafka. Et moi, je trouvais ce film magnifique. Je connaissais très bien Kafka et bien très bien Welles. Et donc, j'ai fait une très longue étude sur le procès. Et puis, j'envoie l'article et puis je découvre le nouveau numéro de Positif où il y avait une table ronde de 15 pages qui parlait du procès. Où tout le monde discutait du procès en table ronde. Alors je me suis dit, ça y est, j'ai pas de chance, ils vont pas publier un nouvel article, alors après avoir fait 15 pages. Et Ben Ayoun me téléphone, il me dit, on a lu votre article, on l'a trouvé très bon, et donc il paraîtra dans le prochain numéro, c'est-à-dire début 63. Donc c'est comme ça que je suis rentré à Positif par ce premier article, et ensuite, au bout de 2 ans, je suis entré au comité de rédaction.
Mais s'il fallait revenir sur ces années-là, ces années de où votre cinéphilie naît, commence à se structurer, est-ce que dès le départ, Michel Simon, ce qui vous intéressait, c'était plutôt écrire autour des films, écrire sur des films, décrypter? Est-ce que l'écriture l'emportait sur votre passion de cinéma ou de devenir, par exemple, cinéaste?
Oui, j'ai jamais pensé devenir cinéaste, même quand j'étais connu comme critique. J'étais tellement admirateur de certains premiers films de critiques, comme Truffaut ou d'autres, et en même temps aussi des désastres d'autres. Et j'avais peut-être pas eu assez de confiance en moi comme futur cinéaste. Et je me disais, il vaut mieux être un critique respecté plutôt que d'être un cinéaste amer, déçu, qui va être méchant avec les films des autres parce qu'il n'a pas réussi lui-même. Et je crois que ça a gâté certains critiques qui sont devenus cinéastes. Donc, non, j'ai toujours... Et je crois que ma vocation de critique, ça venait de mon goût de la littérature.
Et donc de l'écriture.
De l'écriture, et aussi de mon admiration pour certains critiques. J'avais une grande admiration à Positif de gens comme Roger Tailleur et Ben Ayoun, qui étaient de très très grands critiques, et aussi en lisant Romère et Truffaut, par exemple, qui étaient également de très bons critiques au cahier.
Alors justement, c'est quoi être un grand critique pour vous, Michel Simon ? Qu'est-ce qui vous plaisait chez ces critiques-là ?
Écoutez, ce qui me plaisait d'abord, c'était le style. Je trouve que c'est des gens qui savaient écrire, qui savaient communiquer par l'écriture. C'est ça qui est important. C'était un acte littéraire. Deuxièmement, leur connaissance. C'était des gens qui connaissaient vraiment l'histoire du cinéma, qui ne s'emballaient pas pour un rien en trouvant extraordinaire un film qui a été déjà fait il y a 30 ans, mais que le jeune critique n'a pas vu. Donc c'est la connaissance du cinéma. La troisième, c'était la hiérarchie, c'est-à-dire être capable de dire, voilà, ça c'est un très grand film, ça c'est un film moyen, ça c'est un film plutôt inférieur, ça c'est un mauvais film.
Et pourtant c'est subjectif tout cela, non ?
C'est très subjectif, mais je crois que les grands critiques, que ce soit Bazin, que ce soit Truffaut, que ce soit d'autres, c'est des gens qui avaient une certaine idée du cinéma, et qui pensait qu'on pouvait juger les films par rapport à d'autres et par rapport au metteur en scène lui-même. La quatrième, c'est évidemment la capacité d'analyser. Et ça, je crois que j'appartiens à une génération et les générations d'avant, même quelqu'un comme Georges Charansol, par exemple, qui était au Masque et la Plume, qui était un critique dans les années 30, c'était de connaître les autres arts, parce que le cinéma... C'est un art qui comprend tous les arts. Le dialogue, c'est le théâtre. Les comédiens, c'est aussi le théâtre. Le cadre, la lumière, c'est la peinture. La musique, c'est la bande-son, évidemment. Donc, tous les arts se retrouvent dans le cinéma. Et donc, je pense que le fait de connaître les musées, d'aller voir des tableaux, le fait de s'intéresser à la musique, de s'intéresser aux comédiens, fait qu'on se prépare complètement à regarder le cinéma. Moi, quand je lis les critiques, par exemple, il y a de très bons critiques, bien sûr, et j'ai beaucoup d'admiration pour certains d'entre eux, surtout dans le passé, mais je suis surpris que combien de critiques ne parlent jamais de la lumière. C'est-à-dire, on ne sait même pas si le film est dans l'obscurité ou s'il est surexposé. Il ne parle pas de la caméra. On ne sait pas si c'est tourné en plan séquence ou si c'est tourné avec un montage très haché. On a l'impression, la plupart du temps, que c'est un compte-rendu de livre. On raconte l'histoire, et puis ensuite on dit deux ou trois adjectifs sur les acteurs. On dit épatant, Claude Rich, remarquable, Isabelle Huppert. Mais on n'analyse pas le jeu de l'acteur. Donc essentiellement, c'est raconter l'histoire, ensuite juger des personnages, et puis critiquer l'idéologie. C'est un film réactionnaire, c'est un film de droite, c'est un film de gauche, etc. C'est un film révolutionnaire.
Et ça, vous mettez ça en dernier, Michel Simon ?
Non, tout me paraît important. Tout me paraît important. Et je pense que la culture des autres arts, dans ma génération, tous les gens que je connaissais allaient au musée voir des tableaux. Ils écoutaient de la musique, ils lisaient des romans. Tout le monde lisait Dostoïevski à 17 ans. À 18 ans, on lisait Proust, on lisait Dostoïevski, on lisait Conrad. C'était une culture générale. Et je pense que la culture générale, qui est une chose qui a beaucoup disparu, est particulièrement regrettable dans l'écriture sur le cinéma, parce que justement, le cinéma, c'est la culture générale. Tous les grands metteurs en scène que j'ai fréquentés, que ce soit Kubrick, que ce soit Lozay, que ce soit Kazan, etc., ils avaient une culture générale. C'est des gens qui avaient lu énormément, qui avaient vu des tas de tableaux, qui écoutaient de la musique, etc.
Et vous la devez à l'école, à l'éducation,
Je le dois à ma mère pour le théâtre et la littérature. Ouais. Je le dois à l'éducation que j'ai reçue à Condorcet et même jusqu'en Hippocagne à Louis Durand. C'était Gilles Deleuze qui était mon professeur de philosophie, qui m'a donné le prix de philosophie à Louis Grand, après une année avec lui à 9 heures par semaine. Et on déjeunait au Balzar pour parler déjà de cinéma. Et puis Paul Benichoux, qui était un très grand critique de littérature, qui était mon professeur à Condorcet en seconde, et qui a écrit des livres magistraux sur le XVIIe siècle et le XIXe siècle, et avec qui j'avais beaucoup de sympathie, et qui était un brillant analyste de la littérature. Donc, oui, j'ai eu des professeurs ennuyeux, j'ai eu des professeurs pontifiants, mais j'ai eu aussi d'excellents professeurs qui m'ont beaucoup aidé, et les camarades que je fréquentais.
Quelle place avait la littérature dans cette période de formation, Michel Simon, puisque vous dites que votre premier article publié concernait le film d'Orson Welles en adaptation du Procès de Kafka, et que vous connaissiez Kafka?
Oui, je connaissais. Écoutez, à 20 ans, c'était avant, quelques années avant que j'écrive, à 20 ans, je lisais Proust, je lisais Tolstoï, je lisais Dostoïevski, Balzac, Stendhal, etc.
Enfin, parce que tout le monde les lisait, parce qu'on vous demandait de les lire au lycée, ou parce que vous aviez des affinités avec ces auteurs, Michel Simon?
Non, c'était plutôt des affinités, puis je lisais des essais sur la littérature, et puis j'ai passé une année aux États-Unis avec une bourse Fulbright quand j'avais 21 ans, et ça a été très important pour moi parce que l'enseignement aux États-Unis dans ce collège à Amherst, qui est un des grands collèges des États-Unis, qui forme les étudiants, c'est un peu l'équivalent des cagnes et des hippocagnes en France, c'est-à-dire on allait à Amherst, à Williams, à Wesleyan, qui étaient les trois petites universités où il y avait 1000 étudiants, 150 professeurs, avec des cours pour 15 personnes ou 20 personnes. En France, j'avais 500 personnes dans l'amphithéâtre. Je ne parlais jamais avec le professeur qui lisait son cours en général, très ennuyeux. Et là, je me suis retrouvé aux États-Unis avec les plus grands spécialistes de Shakespeare, des Nations Unies, du New Deal, qui me faisaient des cours dans le jardin de leur propriété avec leurs femmes qui nous servaient du thé. Et nous prenions des notes, etc.
C'est très vieux monde, tout ça.
C'était extraordinaire. C'était pas du tout la France. La France, c'était vraiment... L'étudiant était complètement perdu, noyé dans des cours magistraux où il n'avait jamais l'occasion de parler avec le professeur. Il y avait même pas... Tout ça était avant mai 68, faut pas oublier. C'était en 61, 62. Et donc, j'ai été très marqué par cette éducation. Les bibliothèques étaient ouvertes jusqu'à minuit. Toutes les bibliothèques étaient ouvertes jusqu'à minuit. Et puis, on allait dans les travées des bibliothèques et on choisissait soi-même les livres. On commandait pas les livres, on n'attendait pas les livres pendant une heure et demie, comme à la Sorbonne. On allait soi-même choisir des livres, on les empruntait même pendant deux jours, et on les rapportait, etc. Il y avait des revues faites par des étudiants, et j'ai écrit mes premières critiques de cinéma en anglais, à l'université d'Amherst, et j'ai créé un ciné-club, tout ça bien avant Positif. J'ai créé un ciné-club à Amherst, qui n'était pas, ils avaient pas d'éducation de cinéma, les Américains, la France non plus d'ailleurs, mais il n'y avait pas d'université, il n'y avait rien. Donc j'ai créé un ciné-club où je montrais Alexandre Nevsky de Eisenstein. J'étais taxé de rouge par l'extrême droite américaine qui voulait boycotter mes séances. Et puis au contraire, j'ai formé des jeunes Américains. Je me rappelle qu'il y avait le fils de l'ambassadeur de Taïwan à Washington qui suivait mes cours, etc. Donc c'était vraiment extraordinairement formateur. Et c'est vraiment une éducation américaine qui m'a totalement confirmé dans mes goûts. Par exemple, en France, on n'étudiait pas quand on faisait des licences d'anglais, on n'étudiait pas la littérature russe parce qu'on faisait pas du russe. Tandis qu'en France, pour connaître les Russes, il fallait faire une licence de russe. Tandis qu'en Amérique, on lisait les gens en traduction. Donc on vous enseignait à lire les Italiens, les Russes, les Polonais, etc. Donc j'ai eu une culture générale. On lisait Freud, par exemple. Il y avait un cours sur Freud et la littérature. Donc je pouvais lire Freud en traduction, en anglais. Et ça, c'était une chose qui était inconnue en France. On ne lisait pas Freud au lycée.
Et avec toutes les indications que vous me donnez, Michel Simon, je n'arrive toujours pas à imaginer le jeune homme que vous étiez. Vous étiez plutôt solitaire, fréquentant tout seul les salles de cinéma. Vous étiez plutôt un jeune révolté par la France et l'état des universités et des lycées de l'époque. Vous étiez comment ?
D'abord, j'étais pas seul du tout. J'étais très j'aimais beaucoup les contacts avec les camarades de mon âge. Parfois avec des gens plus âgés, mes professeurs par exemple, mais surtout les gens de mon âge. C'est là que j'ai connu Michel Sineux, qui plus tard est entré à Positif, et puis d'autres gens de mon âge qui étaient au lycée Carnot, au lycée Jacques Decour. Moi j'étais à Condorcet, donc c'était un peu dans la même région géographique de Paris. On échangeait beaucoup, on allait au cinéma ensemble, en groupe, à trois ou quatre, pour voir des films, pour en discuter, etc. J'étais évidemment très politisé.
Très jeune ?
J'étais politisé très jeune, pendant la guerre d'Algérie, j'ai beaucoup milité. J'ai été marqué beaucoup par le surréalisme, qui a été pour moi très important. J'étais différent de la majorité des camarades de mon âge, c'est-à-dire j'étais de gauche, mais proche des surréalistes. C'est-à-dire j'étais pas du tout un féodé au Parti communiste, j'étais très libertaire, très anti-stalinien, très anti-communiste. La révolte de Budapest m'avait traumatisé. La révolte de Prague aussi, ça sera plus tard. Et puis la révolte en Pologne aussi, bien sûr. Donc j'ai été très anticommuniste, violemment anticommuniste, mais très à gauche avec le surréalisme qui était très engagé contre la guerre d'Algérie.
Vous aviez des mentors à cette époque ?
Ouais, ben, c'était Breton. C'est-à-dire que...
Vous l'avez connu ?
J'ai pas connu. J'osais pas m'approcher du groupe, mais je connaissais les gens du groupe, Adokirou, Benayoun, etc. Ce qui m'a donné l'envie ensuite d'entrer à Positif plutôt qu'au Cahier, parce que je lisais les Cahiers, comme je vous l'ai dit, mais les Cahiers étaient de droite. C'était une revue de Truffaut, Godard, etc. étaient tous des gens de droite, très liés avec Rebattet, par exemple, qui était en prison après la guerre pour ses livres antisémites. Truffaut, c'était un grand ami de Rebattet. Godard était proche des hussards. Donc, j'admirais les critiques de ces gens-là, mais j'étais très contre idéologiquement, alors que le groupe surréaliste et les gens de Positif étaient très engagés contre la guerre d'Algérie. Et donc,
de là à dire que Truffaut, Godard étaient de droite, vous n'allez pas un peu fort, ou il l'était vraiment,
ah non,
d'après
il l'était,
vous?
Non, il l'était. Même
ils ont bien changé, alors.
Ils ont changé, évidemment. Godard, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il y a une grande différence entre le maoïsme et l'extrême droite? Au fond, tous les deux considèrent le peuple comme une bande d'abrutis qu'il faut mener à la baguette. Je pense que Mao Tse-Tung n'a pas plus de respect pour le peuple que Staline. Et il se retrouve dans une sorte de volonté totalitaire qui fait que pour moi, ce n'est pas de la gauche. C'est la trahison de la gauche.
Et Truffaut, il restait de droite, d'après vous,
justement? Non, Truffaut est devenu, à partir sous De Gaulle, il est devenu de gauche. Truffaut a changé. Il a été très ami avec Rebattet. Et puis, il avait eu des phrases, par exemple, la censure n'existe que pour les lâches. Il était contre la lutte contre la censure. La tension n'existe que pour les lâches. Une phrase très célèbre de Truffaut. Et ensuite, Truffaut a évolué. Enfin, Godard aussi, mais Godard finalement a retrouvé son goût du totalitarisme, d'une certaine façon.
Puisque vous parlez de Rebattet, parlons de ce cas précis. C'était un homme odieux par ses prises de position, par tout ce qu'il a fait pendant cette période de l'occupation, de la collaboration, mais en même temps, il est vrai que c'était un grand théoricien, un grand critique de cinéma. L'était-il pour vous, d'abord, Michel Simon, parce que c'est ce qu'on dit aujourd'hui ?
Non, je ne pense pas que c'était un très grand critique, mais c'était, ça serait plutôt, c'est plutôt Bardèche et Brasillach qui ont écrit une histoire du cinéma plus ouverte que celle de Sadoul. Bardèche et Brasillach étaient évidemment des collaborateurs indignes et honteux, étaient en même temps des critiques de cinéma qui pouvaient adorer le cinéma soviétique. Vous me direz peut-être qu'il n'y avait pas une si grande distance, mais ils admiraient des gens qui pouvaient être de gauche pour eux, mais ils admiraient l'art, alors que Sadoul détestait Hollywood pour des raisons idéologiques. Donc les gens de droite étant plus des esthètes que les gens de gauche, ils s'attachent plus à la forme que les gens de gauche, je dis ça de façon très générale, il est normal qu'ils aient été séduits par des gens qui n'avaient pas leurs opinions, parce qu'ils regardaient la forme. Alors que les gens de gauche parlent souvent de l'idéologie avant tout. Et dans ces cas-là, les gens de gauche n'aimaient pas le cinéma hollywoodien parce que c'était Satan, c'était l'argent, c'était Hollywood, c'était l'Amérique, etc.
Mais le jeune homme révolté et de gauche que vous étiez aimait le cinéma hollywoodien.
Absolument. Alors, de ce point de vue-là, Positif et les Cahiers du cinéma se retrouvaient non pas sur les metteurs en scène hollywoodiens point par point, parce que les Cahiers défendaient des gens comme Hitchcock, alors que Positif défendait Houston. C'était donc des choix différents, mais c'était tout de même une défense de la comédie musicale, du western, du film policier. Ce que la presse de droite, comme le Figaro par exemple, trouvait souvent culturellement enfantin, puéril, Jean-Jacques Gauthier par exemple, et la presse de gauche, d'extrême gauche communiste, jugeait nocif idéologiquement. Donc, Positif et les Cahiers, en fait, se retrouvaient sur la défense du cinéma américain.
Ce sont, bien sûr, les deux grandes revues de cinéma qu'il y avait à l'époque. Si vous voulez bien, on va parler de ces premières années où vous devenez critique, Michel Simon. Si vous voulez bien, demain, on revient sur cette période, c'est-à-dire la période où vous commencez à écrire sur le cinéma, où vous devenez critique, puisqu'en 1963, vous nous l'avez dit, votre premier article est publié par Positif. À demain, Michel Simon.
À demain.
C'était Avenue avec Michel Simon, réalisation June Loper, prise de son Yvan Turc, chargé de programme Daphné Abgral, coordination Florian Delahorme. Une série de Toufik Hakem à réécouter et à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.